magazine des Nations Unies.
Bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau numéro du magazine des Nations Unies. Tout de suite, le sommaire. Non à l'usage de la force, la MONUSCO déplore les échauffourées entre forces de l'ordre et militants de l'INAFEC à Lubumbashi. Des affrontements qui ont fait des blessés et donné lieu à des arrestations. La mission onusienne appelle la police à recourir aux moyens non létaux pour maintenir l'ordre public. La réaction de la MONUSCO dans un instant. La MONUSCO encore, le général Carlos Dos Santos Cruz s'en va. Le commandant des forces de la MONUSCO a dit ses adieux à la presse. C'était le mercredi dernier à la conférence hebdomadaire des Nations Unies. Campagne d'inscription des enfants de 6 à 7 ans vivant dehors de l'école. Nous nous intéressons à une école spécialisée des enfants malentendants, Baketuba à Kikwit. Une religieuse nous parle de cette expérience unique d'encadrement des enfants vulnérables. Sœur Anastasie Kingoma sera notre invitée.
Magazine des Nations Unies, actualité de la semaine.
Nous le disions en titre, des échauffourées ont opposé mardi dernier des militants de l'UNAFEC, parti de Gabriel Kyungu, aux forces de l'ordre à Lubumbashi. Des nombreux blessés par balles réelles ont été enregistrés et même des arrestations. Ce sujet d'insécurité a été évoqué lors de la conférence hebdomadaire des Nations Unies, mercredi dernier. La MONUSCO déplore l'usage de la force et appelle les éléments de la police à recourir à des moyens moins violents dans le maintien de l'ordre. On écoute Félix Bass, porte-parole de la MONUSCO. Ses propos ont été recueillis par Jean-Pierre Elali Coco.
La MONUSCO est bel et bien informée de tels incidents qui se sont produits hier à Lubumbashi, au siège de l'UNAFEC. Évidemment, comme vous le savez, nous déplorons l'usage des balles réelles qui ont été utilisées pour contrôler cette manifestation-là, cette foule de manifestants plutôt. Nous demandons tout simplement aux forces de l'ordre de manière très générale de pouvoir contrôler ces mouvements-là sans faire usage de balles réelles, car ceci est potentiellement dangereux et nous pensons tout simplement que la police nationale congolaise devra recourir à des moyens moins létaux pour contrôler ces foules. Oui, nous sommes au courant et nous suivons cette situation de très près.
Autre actualité, c'est bien la fin du mandat du commandant des forces de la MONUSCO. Le général Carlos Santos Cruz quitte la mission après 2 ans et demi à la tête des troupes onusiennes. Il a quitté la RDC avec 2 sentiments, un sentiment de frustration, mais aussi un sentiment de satisfaction pour des actions ou réalisations engrangées pour l'avènement d'une paix durable en République démocratique du Congo. Il a dit ce mercredi au cours de la conférence hebdomadaire des Nations Unies. Les propos du général Carlos ont été recueillis encore une fois par Jean-Pierre Elali Coco.
Je pars de la mission avec beaucoup de frustration pour n'avoir pas été en mesure de faire plus pour les peuples congolais. C'était la frustration et la souffrance des populations qui nous motivaient au quotidien. La seule motivation d'être ici était la volonté d'aider les plus vulnérables contre les bandits et les bandes de criminels, appelés groupes armés. Goma, c'est la grande réalisation. La défaite de 23, c'est la grande réalisation. Goma, ce moment, c'est visible pour nous et c'est possible de voir tous les jours le développement en Goma. Le retour vers le peuple à Kinga, 30 000 personnes, 25 000 personnes.
Magazine des Nations Unies, décryptage.
Avec l'appui du PNUD, le ministère de l'Énergie et Ressources Hydrauliques a organisé du 13 au 14 novembre à Kinshasa la 2e édition du Forum National sur l'accès pour tous à l'énergie durable, FODER, en sigle. Nous y reviendrons en détail dans notre prochaine livraison, mais 2 mois avant ce forum, dans le cadre du même partenariat, un atelier a eu lieu dans la capitale congolaise sur ce projet de l'accès pour tous à l'énergie durable. Nous revenons donc sur l'entretien que nous avait accordé en marge de cet atelier, messieurs Idesbald Chinamula, il est conseiller au programme Changement climatique et énergie au PNUD RDC. C'était avec Honoré Misenga Kalala.
Idesbald Chinamula, bonjour.
Bonjour.
Le PNUD appuie la RDC dans la mise en place d'un agenda et d'un programme d'investissement pour répondre à l'initiative Énergie durable pour tous. C'est quoi l'initiative Énergie durable pour tous?
L'initiative Énergie durable pour tous est une initiative lancée par le secrétaire général des Nations Unies pour mobiliser les politiques et tous les différents acteurs du développement dans les défis de la lutte contre la pauvreté. En effet, il a été constaté que les pays n'avancent pas beaucoup dans leurs programmes de développement qui sont mis en place simplement parce qu'il y a un déficit en termes énergétiques. À ce jour, au XXIe siècle, à l'ère de la révolution industrielle et révolution technologique, la plupart des pays, malheureusement, continuent toujours de recourir aux technologies traditionnelles en ce qui concerne l'énergie, notamment la biomasse énergétique qui représente pour la RDC 92% du bilan énergétique. Ça veut dire quoi la biomasse énergétique? C'est le charbon de bois, le bois de feu. C'est cela qui constitue l'essentiel de la consommation énergétique en RDC. Aujourd'hui, au XXIe siècle, ce sont des situations quasiment inacceptables.
Alors, quels sont les objectifs de cette initiative du secrétaire général?
Les objectifs, comme je l'ai mentionné, c'est vraiment en ligne droite avec les objectifs de la lutte contre la pauvreté. Je vais vous donner quelques exemples. On vient de faire la revue des OMD pour la République démocratique du Congo. OMD, c'est Objectif du millénaire pour le développement. On a constaté, par exemple, qu'on a fait suffisamment de progrès sur les OMD 2, 3, 4, c'est-à-dire l'éducation, la parité du genre à l'éducation, la question des femmes assistées médicalement dans l'accouchement, la question également des vaccinations. Par contre, l'OMD 1 sur la lutte contre la pauvreté, on n'a pas fait suffisamment de progrès. Et là-dessus, on constate effectivement que la question de l'énergie a été marginalisée dans la mise en œuvre des OMD, surtout au niveau de l'OMD 7 qui concerne l'environnement, changement climatique. Et donc ça, c'est une des leçons qu'on vient de tirer dans cet exercice en faisant des recommandations que dans la perspective des ODD, Objectifs du développement durable, qui va succéder donc aux OMD, qu'on puisse mettre l'énergie au centre. Le secrétaire général des Nations Unies avait anticipé quasiment cette situation en préconisant effectivement la question de l'énergie qui a des ramifications, des liens avec tous les secteurs de développement. Avec l'énergie, on va éclairer les villages, les hôpitaux, les écoles. Avec l'énergie, on va promouvoir la petite transformation. Avec l'énergie, on va diversifier l'économie. Et ça, ça fait défaut. Il n'y a pas une petite industrie et par manque justement d'énergie.
Le PNUD a aidé le gouvernement à mettre en place ce que vous avez appelé l'Atlas des énergies renouvelables. C'est toujours dans le cadre de ce programme Initiative Énergie Durable.
Le PNUD est très très engagé depuis 3 ans, 4 ans maintenant. Le PNUD accompagne la RDC dans son ambition effectivement d'être un leader sur les questions énergétiques. Donc la première chose, on a aidé les pays à réaliser son état de lieu, province par province, et cet état de lieu a conduit à l'élaboration de l'Atlas des énergies renouvelables qui en fait recense les potentiels globaux du pays et localise environ 780 sites pour le développement des sites hydroélectriques, c'est-à-dire des solutions décentralisées. Dans les 145 territoires de la RDC, c'est possible. L'Atlas est en train de promouvoir un nouveau business en RDC pour montrer que la RDC, ce n'est pas seulement le secteur minier, c'est aussi le marché de l'électricité. Il est possible de faire du business dans le secteur de l'énergie et c'est largement décentralisé au-delà des INGA qui étaient les seuls sites énergétiques connus en RDC.
Donc chaque territoire en RDC a son potentiel énergétique.
Chaque territoire dispose de quoi répondre à ses besoins énergétiques. L'Atlas l'a démontré et donc aujourd'hui avec les 26 provinces également, on est en train de faire une mise à jour de cet Atlas et chacune de ces 26 provinces aussi a les potentiels nécessaires pour répondre à ses besoins.
Alors je reviens au programme Initiative Énergie Durable pour tous. Il s'agit dans le cas présent d'un projet qui porte à la fois sur un agenda, un programme à mettre en place. Comment peut-on comprendre les concepts agenda et programme?
L'agenda, c'est en fait comment on va articuler la mise en œuvre de l'initiative énergie durable pour tous. Un agenda, c'est on doit par exemple se fixer un horizon temporaire. Et là-dessus, la RDC est clairement en train de se prononcer pour 15 ans, c'est-à-dire de 2016 à 2030. Et on va probablement aller vers 3 quinquennats, 2016 à 2020, 2021 à 2025 et puis 2026-2030. Et pour chaque quinquennat, il y aura bien sûr des objectifs qui seront fixés. C'est ça l'agenda du pays, les cadres à mettre en place, les structures et puis quels sont les programmes effectivement qui vont être mis en œuvre pour chaque quinquennat qui va être fixé. Quelles sont les cibles et les objectifs qu'on fixe pour chaque programme.
Et vous pensez que dans cette échéance de 15 ans, la RDC peut atteindre ses objectifs?
La RDC peut avancer suffisamment. Comme je l'ai dit, la RDC dispose d'un potentiel énorme, de beaucoup d'atouts largement décentralisés, à portée de chaque territoire, et puis c'est des ressources qui sont facilement mobilisables. Et si on fait cela en boucle, on pourra alimenter toute la RDC. Donc c'est possible effectivement pour la RDC d'avancer et donc de se fixer des objectifs ambitieux.
Donc pour la RDC, il faut absolument aller au-delà de INGA.
Bien entendu, ça c'est un message clair qui est donné. Avec INGA, ce n'est pas possible et ce n'est pas économiquement rentable d'électrifier l'ensemble du pays. INGA a la vocation régionale et même continental. Inga, c'est pour des gros investissements comme les partenariats avec l'Afrique du Sud, avec le Nigeria, avec d'autres pays. Par contre, pour la RDC, ce sont les solutions décentralisées que l'Atlas des énergies renouvelables est en train de démontrer.
En quoi consiste donc concrètement l'appui du PNUD dans ces projets?
Le PNUD est en train de mobiliser les autorités au plus haut niveau. C'est un processus qui ne doit pas seulement être un processus technique, mais c'est un processus aussi politique. Il faut faire passer les messages clairs que nous sommes dans un contexte difficile, mais il y a beaucoup d'atouts. Et donc, on voudrait vraiment soutenir l'engagement des hommes politiques au plus haut niveau et aussi soutenir les dialogues intersectoriels. L'énergie, c'est multisectoriel, ça dessert plusieurs secteurs. Il faut faciliter aussi ces dialogues entre plusieurs secteurs qui vont bénéficier de l'énergie. Et ça, l'appui du PNUD est très important pour faciliter ces dialogues. L'appui du PNUD également est très important pour aider les pays à développer une stratégie qui va justement lui permettre de voir comment aborder, comment définir ses priorités, les aligner, voir comment les adresser aussi. L'appui du PNUD a jusque-là été assez essentiel, on doit les reconnaître, parce que c'est grâce à l'appui du PNUD que la RDC a été alignée parmi les 6 pays actuellement engagés dans la formulation d'un agenda d'action pays et le programme d'investissement, et les seuls pays francophones à ce jour.
Donc le PNUD fait aussi le plaidoyer pour la RDC.
Bien entendu que nous sommes en train de préparer l'édition 2015 du FODER qui va permettre la validation de cet agenda. La RDC va participer à la COP21 à Paris sur le changement climatique et c'est des opportunités immense pour mobiliser les partenaires d'accompagnement.
Idesbal de Chinamoga, merci.
Je vous remercie également.
Ouvrons cette page par la ville de Goma, honneur qui vous. La police nationale congolaise, cette ville dotée d'un nouveau bâtiment, abritant son centre de santé. Un ouvrage dont les travaux de construction ont été financés par la MONUSCO, par les truchements de sa section VIH-SIDA. La remise officielle du bâtiment aux autorités de la PNC a eu lieu le lundi 9 novembre 2015. 133 cas de choléra, dont 2 décès enregistrés dans la zone de santé de Kalemie, selon un rapport publié mardi par le bureau de l'OMS RDC. Ce rapport porte sur la situation du choléra et de la rougeole dans le sud-est du pays. Il souligne notamment que depuis le début de l'épidémie du choléra dans les provinces de l'ex-Katanga, Maniema, Nord-Kivu, Sud-Kivu et l'ex-province orientale, un total de 17 529 cas, dont 213 décès, ont été notifiés pour un taux de létalité de 1,6% sur l'ensemble de la RDC. Enfin, l'ouest du pays, la FAO encourage les populations paysannes des territoires de Sekebanza et de Luozi à réduire les pertes post-récolte. Et ce, dans le cadre d'un projet conjoint lancé en juin 2014 en partenariat avec d'autres agences onusiennes basées à Rome, en l'occurrence, outre la FAO, le FIDA et le PAM. Une série d'ateliers ont été organisés le 3 novembre dernier à Kibula et Sekebanza et le 6 novembre à Kingila et Luozi au Congo central. Environ 200 personnes, dont 90 paysannes, ont pris part et ont été sensibilisées aux activités du projet.
Magazine des Nations Unies.
Baketuba, traduisez, ils vont parler. C'est le nom en tout cas d'une école spécialisée des enfants sourds-muets à Kikwit, dans la province du Kwilu. Cette école encadre plus de 25 élèves malentendants avec des moyens de bord. Comment fonctionne-t-elle? De quel encadrement bénéficient ces enfants vulnérables? Et quelles sont les difficultés rencontrées? Sœur Anastasie Kingom Mambale dirige cette école depuis quelques années. Elle nous livre son expérience dans cet entretien qu'il a eu avec Jean-Pierre et Lali Coco.
Sœur Anastasie Kingom Mambale, bonjour.
Bonjour, mon frère.
Vous êtes directrice de cette école spécialisée pour les sourds, le complexe scolaire Baketuba. Parlez-nous un tout petit peu d'abord, ma sœur, de l'historique de cette école spécialisée.
L'école Baketuba de Kikwit est née de l'initiative de l'évêque du lieu suite à la demande de parents des enfants vivant avec handicap auditif qui allait étudier à Beno. Le parent se trouvait devant les difficultés de transport et des frais d'internat pour les enfants qui allaient étudier là-bas. Ils ont contacté l'évêque, ils ont demandé à l'évêque la congrégation des sœurs de Saint-Joseph de Kuneyo qui s'occupe des enfants sourds à Beno peuvent venir aussi ici à Kikwit, puisque l'école de Beno est la première école en Afrique centrale depuis 1953. À la demande de l'évêque, la congrégation a accepté et en 1992, nous sommes venus pour commencer l'école. Et lui aussi était très disponible ouverte qui nous a donné sa maison d'évêché qui est en construction pour commencer l'école. C'est ainsi que le 7 décembre 1992, à 7h30, l'école Botatouba a vu le jour, avec un effectif des enfants consultés par Laurel de Beno, papa écolé de qui actuellement à Kinshasa, à l'école Kikessa, avait déjà consulté. Nous avons choisi 9 enfants qui ont commencé l'école. On ne pouvait pas prendre tout le monde, 40 pour commencer, sinon ça allait être une classe de 400 enfants. Alors on a choisi 9 enfants qui ont commencé l'année.
Et de 92 à ce jour 2015, comment fonctionne normalement cette école?
Depuis 92 jusqu'à aujourd'hui, l'école fonctionne de cette manière. Il y a les degrés de démutisation, 3 ans, parce que là, on démutise les enfants. Les enfants voient les choses, ils ignorent leur nom. Et dans ce degré, on apprend aux enfants les noms des choses et pour qui va leur permettre pour entamer l'école primaire. Sans cela, l'enfant ne peut pas commencer directement l'école primaire. Et après, nous avons l'école primaire. Jusqu'en sixième, l'enfant présente les examens de TENAFEP, comme tous les autres enfants qui actuellement c'est ENAFEP. Ils réussissent parce qu'ils ont le même programme. Nous suivons le même programme national de l'enseignement. Fini avec l'école primaire, l'enfant passe à l'école secondaire. Donc nous avons le démutisation, le primaire et le secondaire. Et là, dans les certains secondaires des métiers, il y a la coupe et couture, il y a l'artisanat commercial et construction, dont la maçonnerie.
Ça, c'est pour l'organisation. Parlez un tout petit peu du personnel scolaire.
Pour le personnel scolaire, nous sommes 25 personnels qui œuvrent ici. Il y a la directrice, il y a les directeurs adjoints, il y a une assistante sociale, il y a une intendante, il y a une directrice d'internat, il y a une maman éducatrice qui passe la nuit avec les enfants dans la maison d'accueil. Et cette maison d'accueil a comme capacité plus ou moins 20 enfants, filles et garçons. On a inculqué à ces enfants l'esprit de famille. Puisqu'en famille, on est là, il y a papa, maman et les enfants, filles et garçons. Et on n'a pas fait comme l'esprit de l'internat, mais on a initié une maison d'accueil, surtout pour les enfants qui nous viennent des fins fonds de la province et qui n'ont pas de famille ici à Kipwich.
Et parlons un tout petit peu, ma sœur, de la prise en charge médicale, parce que ces enfants sont amenés un jour peut-être à parler. Comment vous le faites ici concrètement? Est-ce que vous avez un appui, un accompagnement médical pour ces enfants?
Oui, l'appui médical pour ces enfants. L'école fait venir Laurel du village Bondeko de Kinshasa, le docteur Tiswaka qui vient avec son équipe ici sur place pour consulter les enfants. On arrange, c'est pas chaque année puisqu'il faut avoir les moyens pour les faire venir. S'il n'y a pas de moyens financiers, on n'appelle pas.
Ma sœur, vous faites une œuvre grandiose ici. Nous voulons savoir un peu, comme dans toute œuvre humaine, il ne manque pas de difficultés. Quelles sont les grandes difficultés que vous rencontrez dans l'accomplissement de votre tâche ici?
C'est d'abord le problème financier. Parce qu'une œuvre ou quelque chose ou une entreprise fonctionne grâce aux besoins financiers, si ça n'y est pas, c'est difficile. Bon, nous nous débattons tant bien que mal. Hier, c'était nos sœurs missionnaires italiennes qui, de l'appui de leur pays, de leur paroisse, de leur diocèse, de leurs amis, connaissances, familles, soutenaient à 100% l'œuvre. Aujourd'hui, nous n'avons plus nos sœurs missionnaires. Nous sommes restés, nous, les sœurs congolaises. Et alors, c'est là où pose vraiment des difficultés énormes. Nous sommes là, nous connaissons la réalité de notre pays, nous ne pouvons pas nous vanter de ceci, cela. Bon, nous avons des difficultés. Et quand on va vers le parent, conscientiser le parent pour la prise en charge des enfants du point de vue matériel ou financier, les parents ne sont pas tellement flexibles, ne participent pas vraiment à 100% pour ça. Et c'est ce qui fait que quand l'enfant vient ici, parfois il n'a rien et nous sommes obligés de chercher quelque chose pour remédier la situation de l'enfant. Par exemple, les objets classiques, Nous devons nous débattre pour donner à cet enfant qu'il puisse apprendre comme l'enfant normal, qui demain lui aussi dans sa vie devient quelqu'un. Et il n'y a pas seulement les problèmes financiers, donc je peux dire matériel ou matériel didactique, même les réhabilitations du bâtiment ou le banc. Et c'est surtout l'amour qui nous pousse à faire cela. Sans amour, on ne fera rien. On risque de bâtir sur le sable.
Oui, sans amour, on ne peut rien faire. Et vous savez que l'UNICEF et bien sûr d'autres partenaires sont en train de mener une campagne ici pour l'inscription des enfants de 6 à 7 ans à l'école primaire. Dans ce cadre-là, est-ce que vous avez un message particulier à l'égard de l'UNICEF, du gouvernement congolais et à l'égard aussi d'autres partenaires?
L'UNICEF s'occupe des enfants pour l'éducation des enfants. De nous soutenir du point de vue financier ou matériel pour le fonctionnement de l'école, dépensez à nous.
Merci, ma soeur.
Merci.
Pour notre nouvelle de province, en prévision donc des prochaines élections en RDC, 700 éléments de la police nationale congolaise en formation à Bunia, dans la nouvelle province de l'Ituri. Cette formation, assurée par la MONUSCO, a démarré mardi et porte sur la sécurisation du processus électoral. Question de donner aux policiers congolais des aptitudes professionnelles pour assurer le maintien de l'ordre pendant les élections. Les détails avec Jean-Claude Loki.
Les périodes électorales demeurent des moments de fortes tensions sociopolitiques, raison pour laquelle, soulignent les organisateurs, une préparation s'impose pour prévenir toute situation de trouble à l'ordre public. Amélie Gebdjou, formatrice à la police des Nations Unies.
Les élections nécessitent une préparation sur toutes les différentes phases. Les hommes doivent être aguerris pour éventuellement éviter des cas de crise, quoi.
Dans cette formation, il y a l'éthique et la déontologie policière, le processus électoral, les droits de l'homme ou encore le sécurisme. La société civile de l'Ituri appelle l'État congolais à s'impliquer dans la prise en charge des policiers afin que ces derniers ne se livrent pas aux tracasseries. Dieudonné Lossa, chargé des relations publiques de cette structure citoyenne.
Il ne faut se limiter pas seulement à la formation des policiers, mais qu'on assure leur survie sur le terrain, parce que quand ils vont sur le terrain, on ne leur donne pas les moyens nécessaires pour leur survie et ils se mettent à faire n'importe quoi.
Ce projet de renforcement des capacités de la police nationale s'inscrit dans le cadre du mandat de la MONUSCO conformément aux résolutions 2147 et 2211 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Bounia, Jean-Claude Le Kidile, Radio Okapi.
Magazine des Nations Unies, questions aux Nations Unies.
Saint-Florian Katumba, journal explorateur. J'ai une préoccupation. Le dialogue inclusif pointe à l'horizon. En République démocratique du Congo, est-ce que la MONUSCO va se faire porte-parole de la presse, ou soit la presse aura un quota de l'accréditation pour une couverture médiatique concernant ces grands forums tant attendus en RDC? Je vous remercie.
Voilà, après cette question de cet intervenant, je vous propose de suivre la réaction ou la réponse de Félix Bass. Je rappelle qu'il est le porte-parole de la MONUSCO.
Je vais peut-être vous décevoir, mais la question reste posée. Est-ce que la MONUSCO va se considérer comme porte-parole du gouvernement congolais? Je ne crois pas. Je pense que je vous ai toujours répété à suffisance au cours de nos rencontres précédentes que le dialogue national est d'abord une histoire congolo-congolaise. Et que là, il faut se féliciter qu'une telle initiative ait été abordée et que les discussions soient entamées justement pour permettre la venue prochaine d'élections crédibles, paisibles et transparentes. Parce que vous savez, à travers ce dialogue national, on s'attend à ce que les divergences soient aplanies, que les questions d'importance soient posées et que les discussions permettent d'aller vers des élections qui seront transparentes et éviter les violences électorales ou les violences post-électorales. Donc la MONUSCO n'est pas invitée à ce dialogue jusqu'à preuve du contraire, et donc elle ne saurait s'ériger en porte-parole du gouvernement congolais. Je pense que nous connaissons tous le porte-parole du gouvernement congolais. Et bien, je pense que vous devez vous référer à M. Lambert Mendy, qui est le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement.
Magazine des Nations Unies. Portrait du jour.
Je m'appelle Julien Nyamouini Monachango. Je suis marié, père de 4 enfants, 3 filles et 1 garçon. J'ai commencé mon école primaire à Banga. C'est une école protestante ainsi que le cycle d'orientation. J'ai été ensuite orienté d'abord au collège Sainte-Thérèse de Brabanta, devenu Mapangu, avant d'aller au collège de Nyanga, selon le vœu de mon père, plus précisément. Après, j'ai entamé les études supérieures, après avoir décroché mon diplôme d'État à l'Institut supérieur pédagogique de Kananga, l'ISP Kananga, où je fais les études des lettres. Ensuite, je suis allé passer un concours d'admission à l'Institut supérieur des sciences et techniques de l'information, l'ISTI, qui deviendra plus tard IFASIC, où j'ai obtenu d'abord un diplôme de graduat, puis celui de licence en sciences de l'information et de la communication. D'abord gradué en français et en linguistique africaine, et donc je suis un enseignant de formation et j'ai même pratiqué. Et avant de me lancer pratiquement en journalisme dans plusieurs stations de radio et télévision. J'ai enseigné le français dans le Kasaï, plus précisément à Ilebo, et puis dans plusieurs écoles de Kinshasa. J'ai été conseiller pédagogique, directeur des études et préfet des études. Je suis très content d'avoir fait ce travail. Puis dans la profession actuelle, j'ai commencé par la Voix du Zaïre, devenu la RTNC comme stagiaire, puis collaborateur extérieur. Je suis allé à Radio Catholique, Radio Elikia, où nous avions monté une rédaction au sens strict du terme. J'ai été nommé rédacteur en chef. Après, je suis recruté à TKM comme présentateur du journal à la radio. Et quand TKM sera placé sous la gestion de l'État, ça deviendra Radio Kin 3, et je serai nommé directeur de l'information. Et finalement, une année plus tard, j'ai démissionné pour des raisons personnelles. 3 mois plus tard, je serai nommé directeur et chargé de mission à la radio-télévision Kananga Malandi. Ça s'appelait TKM, qui était en fait une filiale de TKM. En mai 2002, je suis recruté donc à la MONUC, devenu aujourd'hui MONUSCO. Ma fonction actuelle, je suis rédacteur en chef adjoint en charge des régions et donc je suis coordonnateur des rédactions régionales. Mes tâches quotidiennes, dès que j'arrive le matin, j'ai la conférence téléphonique avec toutes les régions, donc toutes les provinces, suivie de productions qui sont prévues, qui viendront de rédactions régionales. Et puis, je fais les corrections de papier et autres reportages et d'autres productions. Et puis, suivi des différents dossiers des collègues qui sont en province, ici à Kinshasa. Mon temps libre, un peu de promenade, la lecture, d'abord les mémoires, ça m'intéresse beaucoup. J'ai beaucoup lu des mémoires de chefs d'État parce que je suis très intéressé par les questions politiques et notamment de la politique étrangère. Je regarde un peu plus la télévision et j'écoute beaucoup la radio. À la télé, je regarde plus les documentaires, pas trop des films, d'abord les informations. Et puis des magazines et des reportages, ça m'intéresse beaucoup. Le sport, je regarde beaucoup, le foot, j'aime bien ça. Et moi-même, je fais souvent les week-ends au moins 10 km de marche à pied pour se refaire un peu la santé. Les mains, j'aime bien manger le riz, ça va vous étonner. Le riz aux haricots, c'est mon repas préféré avec du poisson et puis de la viande. Et parfois avec les pondous, c'est très intéressant pour moi, j'aime bien ça. Et ce qu'il faut ajouter, la musique, oui, j'écoute bien. D'abord Taboulaye, c'est mon idole. J'ai beaucoup d'admiration pour cet homme qui nous a quittés il y a quelques temps. Kofi, c'est mon congénère, je dirais. Il est presque de mon âge, donc je l'apprécie beaucoup, il chante bien. Voilà. Et les perspectives d'avenir, bon, si Dieu nous prête vie, je pense bien monter une entreprise de presse.
Magazine des Nations Unies. Tout sur les faits saillants des activités des agences du système des Nations Unies en RDC. Chaque dimanche de 10h à 10h30, heure de Kinshasa, sur Radio Kapi.
notre agenda pour terminer. Prenez donc vos carnets, notez quelques rendez-vous du calendrier des Nations Unies pour la semaine qui commence. Lundi déjà, 16 novembre, c'est la journée mondiale de la tolérance. Jeudi 19 novembre, c'est la journée mondiale des toilettes. Et enfin, le vendredi 20 novembre, ce sera un double événement, journée de l'industrialisation de l'Afrique, mais également journée mondiale de l'enfance. Et c'est la fin de notre magazine des Nations Unies qui était coordonné par Jean-Pierre Elali Coco, au reportage Honoré Missenga. Jean-Claude Noki également a participé à cette émission. Merci André Mongou qui l'a mise en onde. Je suis Sina Salama et je vous retrouve avec le même plaisir le week-end prochain. À bientôt. Ciao.